Bonjour à tous, en ce moment je tente de diversifier mes activités et j'ai bon espoir de remplacer le père Fouras en haut de son fort. Je propose donc en toute discrétion de réécouter le meilleur de Pop Pop Pop, aujourd'hui dans mon mixeur de pop culture, Queen, Chris et King Peter Doherty. Pop-opienne et tous les autres aussi, bonjour. Ça fait une paye qu'on court après notre invité d'aujourd'hui. Seulement voilà, cette jeune femme court vite et en plus, elle est sans cesse par Mons et par Vaux. Et quand je parle de Vaux, je pense au pluriel de Val, les petites vallées, et pas au Vaux, les petits de la vache, enfin de la génisse. Le Vaux, terme générique, qui désigne indistinctement l'animal sans se préoccuper de son sexe ni de son genre. Ce qui avait d'ailleurs poussé le général de Gaulle à déclarer « Les Français sont des Vaux ». Enfin bon, on y reviendra. Oui, ça fait un moment qu'on piste notre invité d'aujourd'hui, mais comme en plus elle s'amuse à brouiller les pistes et qu'elle court vite donc, et pas seulement au milieu des veaux, puisque le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle joue avec les genres, eh bien ça ne simplifie pas la tâche. Et comme si ça ne suffisait pas, elle raccourcit son nom d'année en année, passant de Christine and the Queens, mais oui bien sûr c'est elle, à Chris, en moins de temps qu'il n'en faut un caméléon pour gober une libellule insouciante. Ce qui fait que si nous avions traîné encore quelques semaines, nous aurions peut-être ressucé. Perspective que nous aurions accueilli avec le même plaisir, tant il est vrai que ressucé, qu'on soit garçon ou fille, ben c'est jamais désagréable. Enfin bon, Chris est l'invité de Pop Pop Pop.
France Inter. Pop Pop Pop. Antoine de Caunes.
Bonjour Chris.
Bonjour, quel plaisir d'être ici.
Mais j'espère bien, et il est partagé et réciproque. Bon, c'est on parle plus de Christine and the Queens.
Bah Chris, c'est plus simple, ça nous laisse plus de place pour dire d'autres choses en fait.
Bien. Bienvenue dans Pop Pop Pop, vous qui êtes désormais habitué aux shows américains, vous n'allez pas être déçus. Hein. Ici c'est Hollywood, mais avec 5 euros de budget, vous allez voir. À mes côtés, Charline Roux, ex-Charline Roux et les roboratifs Picard. Bonjour Charline.
Ouais, elle a une grande carrière, enfin, locale. Bonjour Antoine,
donc,
bonjour Chris.
Donc vous appelez Charline tout court maintenant.
Oui, bien sûr. Voilà.
Et pour l'occasion, nous allons nous rebaptiser aujourd'hui plus de Antoine de Caunes, mais Ant, plus de Charline Roux, mais Char. Voilà. Et c'est parti.
Ant, sur France Inter.
Ah oui, c'est plus surprenant.
C'est mieux.
C'est plus concis, c'est du plus coup, concis. C'est déstabilisant. C'est efficace.
Bien, au menu donc de Pop Pop Pop, celle qui a lâché ses rênes pour s'imposer en majesté dans la pop culture. Chris est avec nous jusqu'à 17h. Au menu également de Pop Pop Pop, on débriefe l'événement pop de cette nuit, les Grammy Awards, tout à l'heure dans les Pop News. Mais avant ça, Chris, vous le savez, ici, il existe une question. Une question encore plus glissante que quand je tente le moonwalk de Michael Jackson sur mon parquet trop lustré.
Sur France Inter.
C'est la question. Et c'est... Mon mot de mot.
Ah, bah, voilà.
Ah c'est ça,
bah,
oui, c'est ça. Voilà. Merci, Gisela Fontanou, tu l'as bien rappelé sur le coup. Bon, et cette question, c'est... Pour vous, Chris, c'est quoi la pop culture? Alors, pour être totalement honnête, hein, j'ai eu des réponses amicaleuses, tricomantineuses, voire effrayantes. Et parmi mes préférées, il y a celle du chanteur Christophe, que vous connaissez bien, si bien que vous avez adapté sa chanson « Paradis perdu ».
Pour moi, la pop culture, c'est ce que j'ai vu au quotidien. Il y a un mot qui résonne tout le temps au fond de moi, qui s'appelle variété. En fait, la pop, oui, la pop, c'est ce que je vis. C'est ce que je vis. C'est vous, c'est moi. C'est quelque chose qui se transmet.
Bien. Et pour vous, Chris,
bien philosophique,
c'est quoi,
hein, ça
oui,
vous pour moi, la pop culture, c'est, je dirais que c'est le rêve démocratique. C'est le rêve qui peut se partager, qui peut s'attraper dans la rue parce qu'on écoute une radio. Enfin, c'est l'idée de contagion absolue d'un rêve possible, quoi. Ce que j'aime bien d'ailleurs, parce qu'avant, avant de faire de la chanson, moi, je venais du théâtre. Et ce que j'aimais pas forcément dans le théâtre, c'est que ça puisse être un art d'élite. Enfin, c'est-à-dire que tout le monde ne va pas forcément au théâtre. Alors qu'une chanson qui peut passer à la radio, c'est potentiellement quelqu'un peut l'entendre du sixième étage d'un camion qui passe. Voilà. Donc pour moi, c'est du rêve démocratique.
Et ça passe par la musique.
Ouais.
D'abord.
Ben ça a été un médium que j'ai un médium dit-elle avec sa boule de cristal. Non mais un langage que j'ai découvert tard dans ma vie, enfin tard la vingtaine quoi. Et je me suis dit c'est génial en fait parce que si quelqu'un se souvient d'une mélodie, ensuite quelqu'un peut regarder le clip et de fil en aiguille tu peux l'amener dans un délire absolu alors qu'en fait ça part de trois notes de musique. Enfin c'est ça que j'aime bien.
Mais est-ce que justement Paradis perdu, écoutez. Dans la version Christine and the Queens, c'est pas une définition possible aussi de la pop culture. C'est-à-dire une relecture, une réécriture.
C'est vrai. Surtout que de cette reprise là de Christophe, je mélange en fait, je la mélange un peu avec un extrait d'une chanson de Kanye West qui s'appelle Heartless. Donc c'était une façon aussi de raconter une écriture qui était, mais ça c'est moi j'ai 30 ans, mais je pense que la génération qui vient là, elle est encore plus décomplexée par rapport à une musique hybride, quoi. Ça écoute du hip-hop américain et de la chanson française et tout se mélange, et c'était ouais une espèce, c'est une espèce d'utopie aussi où tu peux mélanger plein de choses pour raconter ta personnalité, quoi.
Vous voulez dire que les vieux amateurs de rock and roll comme moi sont condamnés?
Non, parce que
oui,
parce qu'on peut.
Oh, ça suffit, un chat.
Moi, j'étais optimiste.
Oui.
Ah non, parce que bah non, parce que le rock and roll aujourd'hui, c'est il y a des stars de hip hop qui sont des nouveaux rockers, quoi.
Oui, oui.
Les Asaproki qui se la pètent avec. Enfin bon, c'est pas forcément ça le rock and roll, mais je pense que le rock il se renouvelle tout le temps et qui va migrer ailleurs, quoi.
Bien. Alors Chris, voilà. C'est dans Pop Pop Pop, c'est un événement pop et on va continuer à parler de pop, de culture et de pop culture juste après. Damned, dis-moi version française de Girlfriend, élue chanson de l'année par le magazine Time.
Chris. Indeed. Je me fais la nique, les mains dans le bouson. Tout mon corps me pique, c'est la salaison. Quand ils lourdent leurs bras, elle rit de bonté. Tic tic tac, ça semble écrit sur le papier. Ma tristesse infectera ma mâchoire. Plus je convoite et moins je suis belle à voir. C'est comme un merle, la fille que tu crois retenir. Tap tap t'appuies au hasard pour la faire jouir. Que faire de l'énergie que je perds? Mes amours déçus. Dans le noyau des villes, ils m'interpellent depuis leur cachume. T'es qui de la mode n'est pas défendu. Revenu au matin pleine de sueur. Mon corps mentit entre les bras du passeur. Accroupi, laissé toute l'âme tragique. T'es qui pour me traiter toi?
Pépite pop signée Chris et extrait de l'album où c'est marqué Christine and the Queens, mais où Teen and the Queens est rayé au stabilo vert pour ne laisser apparaître que Chris. Vous aimez stabiloter les pochettes d'albums en général ou juste les vôtres?
Sacrilège. J'aime bien pervertir, griffonner, raturer, préciser. Ouais. J'aimais bien l'idée qu'un deuxième album puisse contredire ou alors être dans la joie aussi de s'amuser avec ce qui avait été créé. Quoi. Oui, j'aime assez ça. Je griffonne beaucoup. D'ailleurs, là, il y a des sets de...
Ah bah alors,
la table est assez griffonnée,
ouais.
Je vois.
La table est griffonnée pour dire les choses gentiment, ouais.
C'est ça. Non, non. J'aime bien ça aussi, hein, moi, je comprends.
C'est tous les invités, en fait, qui dessinent.
C'est bien.
Soit qui s'ennuient, soit que...
C'est une bonne idée.
Non, on espère que ça...
Non, pas les nôtres, pas les les nôtres, bien sûr. Bien.
Alors, sur d'autres émissions, bien sûr.
Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie d'une reine de la pop, dont j'ai oublié le nom, mais... Ah mais oui, bonne question, qui pour le savoir, passons à son pop portrait. Alors, votre portrait, Chris, c'est votre portrait, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et c'est signé Charlene...
Aujourd'hui, nous recevons un personnage de M. Night Shyamalan, l'équivalent dans la vraie vie du Kevin Wendell Crubb de Split, la personne de 14 personnes, vous voyez. Alors certes, Chris est moins inquiétante, mais je suis prête à parier qu'une bête potentiellement féroce se cache aussi parmi ses multiples personnalités, aux côtés de la timide Héloïse, l'exubérante Christine, la combattante Chris, cohabitant elle-même avec l'ultra-bosseuse Héloïse, la créative Christine, la sexy Chris, elle-même partageant l'espace d'Héloïse la lettrée, Christine l'engagée, Chris le voyou, elle-même... Enfin bon, vous avez compris l'idée. Classer Chris, c'est un peu comme essayer de faire dire à Antoine Decaune que franchement, Bruce Springsteen, vite fait quoi. Une mission impossible aujourd'hui. Donc nous recevons une artiste aux 4 victoires, 2 NME Awards, ayant foulé de son céleste pied les plateaux télé les plus prestigieux du monde entier à grand renfort de Corée stylée, The Very International, quoique Very Frenchy, Chris Artist aux déjà 1000 vies.
Bon. Oh. Joli portrait.
C'est une belle bio Twitter, ce sera trop long pour ma bio Twitter.
Il y a plus de 146 bisous, je ne sais plus combien.
C'est magnifique.
Alors Chris, je sais que ce qui vous intéresse, c'est d'échapper à la définition, de faire l'éloge de l'indétermination. Vous validez quand même le portrait ?
Il est très
assez flatteur. Flou.
Et il est assez fluide aussi, oui, c'est ça.
Il est à la fois flou et fluide. Très bien.
Il est fluide, donc, en quelque sorte.
Il est fluide. Bien. D'où vous vient ce goût pour les personnages ? Est-ce qu'ils sont suffisants pour protéger la petite et timide Héloïse ?
Ils sont même nécessaires pour me décupler, décomplexer, libérer quoi. J'ai toujours avancé comme ça en alter ego. En fait, j'ai toujours été dans des histoires aussi depuis que je suis jeune. Mais en fait, parce que alors j'ai eu plusieurs étapes dans ma vie, hein, on s'en fout, mais je le dis quand même. Quand j'étais très jeune, je voulais être romancière. Ouais. Ensuite, je vais faire du théâtre. Et puis maintenant, je suis devenue chanteuse. Mais c'est toujours la même façon de réfléchir en écriture quoi. Depuis que je suis jeune, j'écris des journaux, tout ça, et je mettais des noms sur mes émotions et je me créais des personnages. Mais en fait, c'est une façon très sincère de se raconter, c'est une façon théâtrale de se raconter. Mmh. Et ça fait appel à une imagination et à un truc un peu foisonnant, mais ça a toujours été mon grand plaisir, quoi. Et puis, ça permet de se réinventer aussi.
Et de se mettre en scène.
Et de se mettre en scène, tout à fait.
Et d'être son propre acteur.
Ouais. Mais il y a beaucoup de jeux aussi là-dedans, il y a du plaisir. Parfois, moi, c'est plus simple quand j'ai pensé à Christine et que je me suis dit que ça allait me sauver la vie un peu, c'était comme une technique aussi de survie. J'étais là, mais qu'est-ce que Christine ferait ? Et c'était juste une façon de me décomplexer, en fait. De me dire, arrête d'avoir peur. C'était exactement la même chose.
Pour Madonna, vous êtes, je la cite, la championne du ring pop. Alors, allons justement sur ce ring pop pour parler de pop culture. C'est l'heure de votre pop liste. Oh. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Pour le livre, vous avez porté votre choix sur Notre-Dame des Fleurs, le premier roman de Jean Genet, écrit en 42, publié un an plus tard. Charline, n'est-il pas charmant d'appeler son roman Notre-Dame des Fleurs quand on s'appelle Genet ? S'agit-il d'un livre au bouquet puissant ?
Mais effectivement, vous avez du nez, Antoine ! Oh, qu'est-ce qu'on rit dans cette émission ? Oui. Le roman raconte la vie d'un assassin de 16 ans doté de ce qu'on pourrait qualifier sans exagérer la beauté du diable.
Chris, sauriez-vous l'amabilité de nous en lire un extrait, s'il vous plaît.
Fort bien. Excusez-moi. Alors, je fus à lui à la seconde, comme si, qui dit cela, par la bouche, il m'eût déchargé jusqu'au cœur, entrant en moi jusqu'à n'y plus laisser de place pour moi-même, si bien que je me confonds maintenant avec gangster, cambrioleur, mac, et que la police, s'y trompant, m'arrête. Pendant 3 mois, il fit de mon corps une fête, me battant à tour de bras.
Sexe, violence, poésie.
Notre-Dame des Fleurs de Jean Genet. Pourquoi est-ce que ce livre vous a tellement tapé dans l'œil, si je puis dire ?
Ça a été un grand choc de lecture de jeunesse. Déjà parce que l'écriture est très poétique. Enfin, c'est un roman, mais c'est presque autre chose, quoi. C'est très poétique. L'écriture est. Il y a des décharges visuelles quand tu lis le roman. C'est très frappant. Et c'est un grand livre qui parle des marginaux, des oubliés, des délaissés de la société et qui les transforme en rois. Chez Genet, il y a quelque chose de très queer au sens où tout ce qui pourrait être source de honte ou de rejet devient quelque chose de glorieux. Donc moi, j'ai lu ça adolescente et je me sentais monstrueuse en étant ado et ça m'a donné une force folle de me dire... Et il y a une poétique du nom d'ailleurs dans ce livre. On se donne des noms, on se réinvente avec son nom. On dit ce soir je suis là très oubliée pour dire qu'on est très triste. Donc il y a une espèce de poésie constante comme ça qui... Et en même temps c'est très violent, ça parle de, ça parle de vol à l'étalage et de prostituées, de marins qui veulent faire l'amour. Quoi.
Mais est-ce que c'est vrai que jeune, ado, vous aviez vous-même écrit un roman dans lequel il était déjà question de meurtre ?
Oui. cette tristement célèbre nouvelle que j'ai écrite à 11 ans.
Hein ? Et qui était l'assassin ?
Ah non, mais en fait, c'était très assumé. Mmh. C'était un mari qui tuait sa femme. Et qui l'a laissé dans la neige et tout ça. Et ma mère avait lu cette nouvelle et j'avais 11 ans. Elle m'avait à un moment soupçonné d'avoir volé ce truc sur Internet, ouais, parce que je pense qu'elle était assez inquiète que j'ai écrit ça. Mais c'était de la catharsis.
Je purge, quoi.
C'est comme un cauchemar. Hein,
mais alors, vous qui aimez les masques, Chris, lequel, quand on parle de Jean Genet, lequel préférez-vous ? Celui du romancier des bas-fonds interlope, celui du dramaturge, celui de l'autobiographe qui finit par virer mystique, ou celui qui, sur le tard, va défendre la lutte armée ? Quel est le Jean Genet que vous aimez
le plus ? Ce qui est bien difficile, c'est qu'en fait, c'est tous ces Jean Genet, c'est tous ces Genet superposés qui me plaisent. C'est la complexité de ce personnage aussi. C'est un personnage, lui aussi, il a eu beaucoup de facettes. Et tous complètes, c'est pas incompatible. J'aurais bien du mal à choisir un masque, là. Je vais tous les superposer pour en faire un visage très étrange.
Bien, passons au film. Pour le film, vous nous avez cité All That Jazz de Bob Fosse, le titre traduit chez nous par Que le spectacle commence, sorti en 79. Charline, c'est aussi grâce à ce film que le démon de la danse s'est emparé de vous. Pitchez-le nous.
Ça et la salsa du démon, enfin c'est un détail. Joe Gideon, chorégraphe sous amphétamine, ne vit que pour et par le spectacle. Alors qu'il prépare une nouvelle revue, il est victime d'un infarctus et sa vie de défiler devant lui.
Candy Casey, very good. You're gonna do it again, Victoria. Stop smiling. It's not the high school play. Count.
A 5, 6, 7, 8. What?
All that work.
Stand on your right foot. Point your left toe. Drop that shoulder.
All that pain.
That's not too hard, is it?
Oh, boy, do I hate show business.
All that glitter.
Couple of jokes is what I mean.
Bill, you love show business.
That's right. I love show business.
All that love.
I'll go either way. It's showtime, folks.
All that jazz.
All That Jazz. En français, ça s'appelle Que le spectacle commence. C'est étrange, hein, comme.
C'est une drôle de traduction, ouais. Ouais. Enfin, c'est pas exactement. Ouais, c'est pas littéralement la même chose, ouais.
Non.
All That Jazz, ça veut dire et tout ce qui va avec, quoi.
Ouais, tout ce qui va avec. Mais Bob Fosse, quand on aime la danse, on ne peut pas passer, évidemment, à côté de ce film-là en particulier.
Ouais. Puis même de son travail de chorégraphe. Mmh. Même Michael s'est inspiré de Bob Fosse, en vérité.
À quel point il vous a marqué, lui ?
Bob Fosse. Ouais. Bah moi je me souviens de ce film, c'est pareil, je vous donne des chocs de jeunesse comme ça, boum bam. En fait ce que je trouve très beau, enfin c'est toujours, il y a toujours des problématiques de superposition de sublime et de dégueulasse dans les choses que j'aime bien. Parce que ce film ça parle quand même de quelqu'un qui est en train d'agoniser à un moment d'un infarctus, donc il y a quelque chose d'horrible, quoi. Il est sur son lit d'hôpital et en même temps il met en scène ses souvenirs, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui n'arrive pas à pas être dans la création aussi, ce qui l'isole beaucoup. Enfin en fait c'est une belle métaphore triste un peu de la vie d'artiste aussi, c'est à quel point ça peut isoler en fait d'être tout le temps dans ses histoires. Il est incapable d'avoir une vie émotionnelle stable, il a une fille dont il sait pas s'occuper bien. Parce qu'en fait, il est tout le temps possédé par l'envie de mettre en scène.
Je n'aurais pas l'indélicatesse de vous demander si c'est votre cas.
Alors, je n'ai pas encore d'enfant ni de vie émotionnelle stable. Donc non, mais j'ai un rapport. C'est vrai que j'ai un rapport à la vie où c'est toujours. Je suis toujours en train de me dire qu'est-ce que je pourrais bien mettre en scène avec ça. Et ça, ça m'isole pas encore complètement. Hein, j'ai encore de l'espoir. Je ne suis qu'au début de la trentaine. On ose espérer que ce soit. Mais en tout cas, c'est touchant parce qu'on peut comprendre ce rapport-là. Et il raconte que sans la mise en scène, il y a aussi une discussion dans le film où il est en train de discuter avec la mort tout le temps, donc qui est jouée par Jessica Lange. Donc c'est une très belle mort.
La chance.
C'est pas mal, ouais. Moi j'imagine une mort plus craigneuse que ça quand je discute avec. Mais lui, il a la chance. Et c'est une discussion philosophique aussi sur le rapport à la vie, à la création. Et en même temps, il y a des super numéros dansés qui ont très bien vieilli. C'est encore très très moderne. Ouais. C'est pas du tout kitsch, donc c'est un très beau film. Ouais.
Bon, alors j'ai un livre, j'ai un film, maintenant il me faut une série. Pour la série, vous avez choisi Twin Peaks, la série de David Lynch, hein, diffusée pour la première fois sur la chaîne ABC en 90. Charline, vous l'aviez résumé en disant « Une fille dans un sac, dans une ville chelou ».
C'est pas faux, hein.
C'est pas mal.
Que pouvez-vous ajouter aujourd'hui ?
Eh bien j'ajoute une femme avec une bûche, un homme venu d'un autre endroit et une loge noire.
« She's dead, wrapped in plastic. »«
Good Lord, Laura. »
Was it seduction or illusion? Deception or murder? Nothing is what it seems.
Diane, 11:30 a.m., February 24th.
In a town like Twin Peaks.
Twin Peaks is different. Something very, very strange in these old woods.
A secret society.
Alors, Chris, pourquoi cette fille ? Pourquoi ce sac ? Pourquoi cette ville chelou ? Pourquoi cette bûche ?
J'adore les voix des bandes annonces de séries. C'est toujours plus excitant. C'est en fait, moi j'aime beaucoup David Lynch, mais j'aime bien cette série parce que c'est quand même assez enivrant. Parce qu'en fait, c'est ça part, enfin ça commence comme un polar un peu classique, une fille dans un sac, une ville chelou, donc meurtre, donc qui, mais en fait au bout d'un moment, très vite c'est même plus le problème.
On s'en fout. Oui.
Et ça devient une espèce de cette vie, c'est comme si c'était l'inconscient de quelqu'un pour moi. Enfin David Lynch, bon, on le sait hein. Mm-hmm. Je crois qu'il avait dit qu'il faisait pas de psychanalyse exprès. Je sais pas
oui.
si j'avais lu ça quelque
oui,
part.
Pour pas,
ça s'explique
pour
pas spoiler, hein. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui ne s'expliquent pas
d'ailleurs
dans son travail. Voilà, très bien, ça hein, ça purge des névroses clairement. Mais du coup, c'est très ouais, c'est enivrant quoi. T'es complètement happé dans une espèce de fiction où, mmh. où tu sais pas si tu rêves ou pas, ou si tu cauchemardes ou pas. Et il y a des moments assez flippants, alors que moi j'aime bien les... Enfin, c'est pas franchement film d'horreur, mais c'est juste une atmosphère comme ça, de poison lent.
Légèrement anxiogène, oui.
Légèrement anxiogène.
Mmh, très bien. Bien. Eh bien, on va terminer cette pop list avec votre chanson culte, et cette chanson, c'est celle-ci.
Tous les soirs sans fin, je traîne un vieux désarroi.
Dolce Vita de Christophe, c'est un titre paru en 72, mais que l'on retrouve sur l'album du même titre sorti en 77. Chris, est-ce que cette chanson, vous l'écoutez chez vous, en enfilant votre vieux peignoir de Lord Anglais? Je sais, c'est une info qui peut faire frémir.
Non, mais c'est exactement ça. En fait, moi, quand je pense à chanson culte, je pense à quelle est la chanson que tu as envie de, comme on dit en anglais, lip-syncer. Mm-hmm. C'est-à-dire que tu la chantes pas, mais tu l'interprètes devant mm-hmm. ton miroir. Bah pour moi, ça, c'est un sacré morceau d'acteur, quoi.
Avec une brosse à cheveux à la main.
Ouais, oui. tu mets, pour une fois dans ta vie, tu mets vraiment un rouge à lèvres exagéré, mm-hmm. tu vois, que tu fais un peu baver, puis t'y vas, quoi. C'est vraiment une chanson pour faire ton acte, ton actrice ou ton acteur. Pour moi, c'est ça, une chanson culte. Mais, et Christophe, bon, il est culte, quoi.
Ouais,
c'est
ouais.
le dandy officiel de la chanson. Et d'ailleurs.
Très
sur quelle
bien.
Chanson vous mettez du rouge à lèvres, vous, patron, pour
Moi, sur. Ah, oh, peut-être Born in the USA.
Ah bah ouais, sans blague. Ah, oh, c'est beau.
Alors, je résume Notre-Dame des Fleurs, All That Jazz, Twin Peaks et Christophe. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça nous donne ça.
Oh, 5, 6, 7, 8.
She's dead.
All that pain.
Too hard, is it?
No, you love show business.
Was it seduction or illusion?
Je fus à lui à la seconde. Comme si, qui dit cela? Par la bouche, il m'eût déchargé jusqu'au cœur.
Tous les soirs sans fin.
All that love.
I'll go either way.
Je traînais sur ma Vespa.
Or murder.
Dans mon gilet de satin.
All that jazz.
C'était la Dolce Vita.
A secret society.
Donc méga drama queen en fait.
Voilà, drama ce qui queen traîne. Voilà ce qui traîne dans la tête de Chris.
Sympa, ça va donner encore plus envie aux gens de me rencontrer. S'il vous plaît, ne prenez pas peur les gens, merci.
Mais non, n'ayez pas peur, allez charmante.
C'est comme un Lynch, c'est bien.
C'est sympa. C'est
alors,
fait, tu vois, au moins c'est fait. Quoi.
Chris, on va parler de Chris avec vous, Chris, juste après un extrait de votre nouvel album, Chris, qui s'appelle Chris. Et le morceau, c'est $5.
Pardon, je te déstabilise.
le faire plus sobre, hein, 5 dollars.
C'est 5
dollars. Sur France Inter, c'est extrait de l'album Christine and the Queens, pardon. Chris, notre invité aujourd'hui, Chris Sangdol, un clip dans lequel vous êtes habillé par
Le costume de Paul Smith, le bandage, c'est de différentes friperies bandage.
Paul Smith, vous le savez, n'est jamais très loin de Pop. On l'a appelé pour lui demander ce qu'il aime chez vous et ce qui l'inspire. Écoutez.
Well, because she's so original.
Eh bien, parce qu'elle est tellement originale, et comme on le sait, il y a tellement de musiciens et de groupes dans le monde. Alors c'est très intéressant qu'elle ait réussi à trouver une façon de nous parler d'une manière différente. Bien sûr, par sa musique, mais aussi sur scène, par ses mouvements, son groupe de danseurs, les lumières. Tout dans son show est très original. Et bien sûr, je suis flatté que parfois elle porte mes vêtements, ce qui est très sympa. Enfin, pas vraiment mes propres vêtements.
Je comprends rien. C'est les vêtements de qui alors?
Non, mais c'est son pantalon à lui.
Ah, c'est
non,
son
je pense
pantalon.
Qu'il a voulu rectifier.
D'accord.
Mais non. Alors par ailleurs, je précise que les pantalons de Paul Smith, parce que alors moi, je danse beaucoup sur scène quand même, et je m'emporte des fois, et souvent je déchire mes pantalons. Mm-hmm. C'est devenu une angoisse. Eh bien, les pantalons de Paul Smith ne se déchirent pas.
Ah, c'est une bonne nouvelle.
Je viens de faire de la pub gratuite, mais je tiens à le dire, parce que c'est un exploit.
Ils sont très résistants.
Ils sont résistants.
Je confirme.
Bah, ça va faire partie de la réponse à la question que je vais vous poser maintenant. Mais on comprend évidemment pourquoi des artistes comme Sir Paul Smith sont ravis de vous habiller. Mais vous, on vous a vu en cuir, en matador, en un tas de tenues. Qu'est-ce que vous allez chercher dans un vêtement?
La résistance, non. Alors ça, mais bah alors ça dépend aussi de complètement de quoi j'ai besoin. Mais c'est vrai que sur cet album-là, Chris, il y a un côté très cinéma où dans chaque vidéo j'explore comme une mini-fiction quoi. Et dans La Marcheuse, je suis un toréador, et dans 5 dollars, on sait pas si je suis un tueur à gages ou un hustler, c'est compliqué à savoir. Mais du coup, le vêtement, c'est une métamorphose possible quoi. Ça devient un outil de métamorphose. Mmh. Et tu l'enlèves et tu redeviens tout nu. Et tout est possible de nouveau. Donc c'est assez chiant.
Chris, votre dernier album a été élu album de l'année par le quotidien britannique The Guardian. Mmh. Ça fait quoi de lire ça quand on est parti se réfugier justement à Londres après une rupture sentimentale en 2008 et avant de trouver l'énergie nécessaire pour transcender ses blessures en s'inventant un double?
Bah, c'est assez troublant. C'est comme quand j'avais fait des concerts à Londres pour la première fois. J'avais vraiment l'impression d'avoir bouclé une drôle de boucle très romanesque, quoi. Où à Londres, je me suis autorisée à vivre ça. Et à Londres, je reviens et on comprend aussi tout ce que j'essaie de raconter, les références, le côté très pop, théâtral et tout ça. Donc c'est un peu surréaliste aussi, quoi. On reçoit l'information, mais on la range un peu à un endroit aussi pour pas trop s'asseoir dessus. C'est mieux.
Et justement, dans le Guardian, toujours, le journaliste parle d'une forme de malentendu entre vous et la France, un sentiment peut-être d'être mal comprise. Est-ce que vous le partagez ou est-ce que c'est plus simple outre-Manche?
Je ne sais pas.
Ce que les Anglais projettent de notre rapport avec vous, ce qui est très étonnant.
Moi, j'ai constaté, je pense pas qu'il y ait de malentendu, mais je pense qu'il y a des choses que j'ai plus expliquées en France. Mais parce que c'est des références peut-être, ou c'est une culture, quoi. Par exemple, le côté personnage, en France, on était beaucoup genre, alors, mais où se cache Héloïse? Est-elle derrière leur masque? Et le masque est-elle rêve? Enfin, tu vois, il y a une espèce de psychologisation du travail, alors que moi, je suis que dans un truc très sincère, mais c'est théâtral. Ça, en Angleterre, par exemple, il y a eu David Bowie avant, donc, je suis pas David Bowie du tout, mais il y a cette façon de comprendre. C'est juste que j'ai plus expliqué des choses en France, mais je sais pas s'il y a de malentendus. C'est comme une relation passionnelle, quoi.
Mais justement, j'allais vous le demander, où se cache Héloïse?
Derrière un masque?
Alors,
à qui accordez-vous plus de crédit? À ce Guardian dont nous parlions à l'instant et que personne ne connaît, ou au JT de France 3 à Rennes, qui parlait déjà de vous en 2012 en ces termes?
Arrangement, voix et synthé, Christine fait tout toute seule sur scène. Vrai coup de cœur musical, ses pas de danse font craquer plus d'un. Un serre-tête en forme de bois de Rennes, pour son côté bête de scène.
Un serre-tête.
France 3, ouais.
De bois de Rennes.
C'est pas en font craquer plus d'un. Ça, j'adore aussi. Je me présenterai comme ça maintenant. Mais pas en font craquer plus d'un.
Alors, avec les pantalons.
Ouais, c'est vrai.
Pas les Paul Smith.
Bête de scène, vous l'êtes toujours, mais on peut dire que cette fois, capillairement, vous êtes trouvé, et ce, sans accessoires.
Tout à fait. Là, on est sur plutôt.
On est sur une.
Mais on est là, gars. On est là que tout. Le long de scène, les cheveux, tout ça. On court plus vite, plus légèrement. Mais oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, bizarrement. Je dis bizarrement parce que je sais que sous mes vidéos YouTube, par exemple, en France, il y a toujours des commentaires de gens genre, mais on dirait un garçon avec des cheveux courts. Enfin, tu vois, il n'y a quand même pas le stade de passer d'acceptation de cheveux courts. Alors que je tiens à dire que depuis que j'ai les cheveux courts, je me sens plus femme. Vous voyez, donc comme quoi tout est infiniment paradoxal.
Ça vous va hyper bien après, je me permets.
Merci.
Charline, plus rien ne vous retient.
Bah non, mais je viens de le dire.
Non, mais ça va
très bien. Ah, non, moi j'ai eu les cheveux courts, c'est pas du tout une bonne idée.
Ah bon, suite.
Alors, entre ces deux dates, nous nous sommes croisés. C'était en 2015 sur le plateau du Grand Journal, Canal Plus. À l'époque, ma première question était. Vous ne portez pas de chaussettes?
Oui, c'est vrai, je me souviens.
C'était psychologique.
C'était vrai. Je mettais des chaussures sans chaussettes.
Ça, psychologisant, tu meurs. Alors, années plus tard, je vois que vous portez des chaussettes. Alors, question simple, est-ce que vous ne vous êtes pas tout simplement embourgeoisée, Chris?
Ah, les chaussettes sont-elles signe de bourgeoisie? C'est une très bonne question. C'est possible. Maintenant, c'est vrai que j'ai plusieurs paires de chaussettes. J'en ai même plusieurs de plusieurs couleurs. Des blanches, des bleues, des à motifs. Je pense aussi que j'ai découvert que c'était tout simplement plus joli parfois avec des chaussettes.
C'est pas mal. Ouais.
Et que ça, les pieds sentaient meilleurs.
Plus confortable.
Et moins douloureux, oui, peut-être. Et que ça faisait moins mal aux pieds. Avec ses pas qui font craquer plus d'un.
Et alors, en dehors de toute considération pédestre et pécuniaire, qu'est-ce qui a changé depuis cette période dans votre manière d'envisager la promo et les interviews? Si toutefois quelque chose a changé.
Pas vraiment. J'ai toujours l'excitation du débutant. Moi, par exemple, là, j'arrive à France Inter, je suis toute contente. Je fais une radio. Peut-être que c'est la perception des autres parfois qui change. D'ailleurs, je me souviens que j'avais recommencé les promos sur Chris, le deuxième album, et beaucoup de gens étaient hyper déçus. Ils étaient là, alors, vous vivez à Los Angeles maintenant? Et genre, vous êtes amis avec Madonna? J'étais là, non, je suis toujours à Paris. Et c'est souvent les gens qui étaient là, ah non, vous êtes toujours à Paris? Ok, boring. J'étais là, non, mais je sais pas.
Avec plus d'un million d'exemplaires physiques vendus de chaleur humaine, vous êtes devenue une des artistes francophones les plus vendues dans le monde entier. Et d'ailleurs, vous avez fait plusieurs fois le tour de la planète pop. Le fait d'avoir réduit votre nom, c'est aussi pour aider les gens du monde entier à le prononcer.
Oui, même si c'est vrai qu'en fait, Christine and the Queens, c'était déjà plus facile que Elvis Lutzisier. Mais c'est vrai que ça aurait fait très français maintenant. Elvis Lutzisier. Oui, mais j'aimais vraiment bien aussi l'idée de prendre mon surnom. Parce qu'en fait, en tournée, déjà sur la première tournée de Chaleur Humaine, on commençait à m'appeler Chris tout le temps. Je sais pas, j'aimais bien. Je trouvais que ça me donnait un petit swag en plus. Du coup, maintenant, tout le monde est intime avec moi tout de suite, ce qui est pas mal.
Et quel territoire vous reste-t-il aujourd'hui à conquérir, ou en tout cas ceux qui vous font rêver?
Là, je vais reprendre la tournée en allant, par exemple, en Australie, où je ne suis jamais allée. J'aimerais bien aussi aller au Japon, j'aimerais bien aller en Amérique du Sud, j'ai encore beaucoup de continents à faire. On commence tout juste, ça va être un très mauvais bilan carbone, donc je m'excuse d'avance d'ailleurs, mais j'aimerais bien quand même voyager encore plus.
Chris, ce nouvel album, c'est aussi une façon de redéfinir les codes. Vous jouez sur l'ambiguïté de votre prénom en assumant ce nouveau look pour redéfinir, je vous cite, une féminité opprimée et réveiller une société machiste et phallocentrée. Fin de citation. Vous avez conscience d'être... un modèle, d'une certaine manière, et d'aider les jeunes qui ont du mal à se retrouver, à trouver leur place dans cette société?
En tout cas, je crois à rendre des choses visibles, à occuper des espaces qui n'étaient pas forcément occupés, et je crois à l'idée de... Ouais, en fait, comme, par exemple, quand je fais un clip, je me demande toujours comment est-ce que j'ai envie d'exister en tant que femme, moi, dans la musique maintenant. Qu'est-ce que j'ai envie de montrer de mon corps? Parce que j'ai grandi avec des corps de femmes très lisses, très sublimés, et c'est bien. Mais par exemple, j'ai fait un clip qui s'appelle Doesn't Matter, où je transpire 5 heures et il n'y a pas de retouches, et c'est mon corps en liberté, quoi. Mmh. Et c'est une façon, des fois, d'être. C'est pas grand-chose, mais des fois, ça peut être très politique aussi, de juste décider d'être une femme rugueuse avec des défauts en gros plan, quoi. Et donc, je sais pas si je suis un modèle, mais je me dis. De la même façon que il y a des artistes que j'adore qui sont arrivés tard, genre Lord, par exemple. Lord, moi j'aurais adoré grandir avec Lord en popstar dans ma chambre, parce que ça montre aussi que c'est une écriture avant d'être un mannequin, quoi.
Mais vous êtes consciente de cette influence que vous avez?
Je la ressens, enfin quand on vient me parler, elle est concrète. Après j'essaie de pas trop y penser aussi, parce que j'ai pas envie que ça me bloque. J'ai pas envie que ce soit un costume dans lequel je suis engoncée, parce que des fois ça peut enfermer. Je me souviens que j'ai...
Sauf si c'était un Paul Smith.
Mais par exemple quand je suis montée sur scène avec Madonna, et que Madonna m'a donné une fessée, il y a des féministes qui m'ont dit « mais tu étais un modèle ». Je suis là « mais attendez, je suis toujours un... ». Enfin, c'est pas incompatible en fait, c'est la meilleure façon d'être féministe, peut-être que Madonna me fesse les fesses.
Alors cette planète pop dont nous parlions il y a quelques instants, Chris, vous allez continuer de l'explorer avec ce nouvel album. Et vous dites l'avoir écrit dans des états où vous aviez, je vous cite, faim et envie de sexe. J'ai pas de questions, mais je vous laisse répondre.
Non, c'est vrai. Bon, c'est vrai que la citation comme ça, sortie du contexte à 17h, bon, je l'assume peut-être moins. Non, je l'assume toujours, en fait. C'était un album que j'ai écrit dans des états d'urgence, quoi. Ouais. Mais j'avais très envie aussi de pas m'excuser du tout d'avoir faim ou envie de sexe dans cet album. C'était comme on dit, on a mis Jimmy Fallon, dont je vais utiliser un mot américain. C'est un album d'empowerment, c'est-à-dire de puissance aussi et de, et qu'est-ce que tu vas faire si j'ai faim et envie de toi. Et ça va avec l'esthétique de la pochette aussi d'album où je regarde, c'est pas très clair. on ne sait pas si je lance un défi ou si je suis en train de séduire quelqu'un. C'est un peu ça, quoi.
On peut faire les deux.
Ça peut être les deux complètement.
Vous parlez aussi de cet album comme d'une seconde adolescence, avec ce que ça implique aussi de désagréable et compliqué, ou vraiment comme un pur bouillonnement hormonal?
Oui, c'est vraiment, c'est ça. C'est le bouillonnement, ouais. Et puis c'est le plaisir de bouillonner. Enfin, le plaisir de bouillonner, c'était la définition du jour. Non, mais c'est vrai que dans cet album, il y a un plaisir. C'est un peu toujours les mêmes problématiques, en vérité. Enfin, c'est pas très différent de Chaleur humaine. On est toujours dans des histoires de s'accepter, d'essayer de vivre des choses, de rencontrer l'autre. Mais c'est juste qu'il y a plus de joie à le faire. Il y a moins de mélancolie aussi. Mais c'est un état qui est l'état de ce deuxième album. Et peut-être que dans le troisième, je serai en train de faire du folk très mélancolique. Tout est possible, en fait, hein. Possible. Avec
Chris,
une guitare.
Vous êtes également une bête de scène, comme le rappelait tout à l'heure notre confrère de France 3 Rennes. Et Chris en live, c'est une expérience qui n'est pas pensée avec une succession de numéros impressionnés. Mmh. Impressionnant, non, vous avez opté pour un côté plus théâtral. Mmh. En gros, vous êtes l'anti-Beyoncé en live.
Ouais, ça peut être vu comme ça. Une contre-Beyoncé. Mais en même temps, enfin, en fait, c'est marrant parce que j'adore les machineries pop. J'adore Beyoncé, par exemple. Mmh. Mais Beyoncé, c'est que créer l'illusion de la toute-puissance. Et c'est très bien fait. Mais moi, je suis presque dans l'inverse. C'est-à-dire que j'arrive sur scène, je passe 2h30 sur scène, je me change pas, je transpire dans mon costume. On est dans des logiques de presque, de théâtre, au sens où je tiens la scène pendant 2 heures et je serai jusqu'à ce que jusqu'à ce que la fatigue soit là. Mais parce que j'aime bien aussi la performance de... Enfin, d'ailleurs, on parlait de Bruce Springsteen, le côté Bruce Springsteen qui fait des concerts de, je sais pas, 4-5 heures, qui s'arrête pas et qui donne et qui donne et qui transpire, ça, j'aime aussi beaucoup. Donc, je suis dans des tensions comme ça. J'adore les gros shows pop, mais je vais presque dans l'inverse, tout en aimant ça. Donc, c'est comme... là, je parle comme Christophe, vous avez vu. J'ai atteint le point Christophe.
J'attendais le en même temps.
C'est vous, c'est moi. C'est lui, c'est pourquoi. C'est devant, c'est derrière.
Et Chris, vous faites partie des rares artistes à clamer « J'ai hâte de vieillir », sur scène y compris.
C'est clair. En fait, j'ai hâte de vieillir et que ce soit un problème. Parce que on soit là, non, mais peut-être que pour ce clip, on pourrait prendre quelqu'un d'autre. Et je serais là, non, non, tu vas te rapprocher de Mérine. Non, mais peut-être que là, tu pourrais cacher un peu les cheveux blancs. Je serais là, non, non. Non, parce que je pense, enfin, c'est là que j'ouvre mon petit livre un peu féministe, mais je pense qu'une femme qui vieillit dans une industrie aussi, c'est... qui vieillit de façon naturelle, c'est-à-dire en s'effondrant sur elle-même de façon gracieuse, c'est pas forcément ce qu'on attend. Donc j'ai un peu hâte, j'aimerais bien devenir un vieux rocker. Plus tard. En fait, peut-être que ce sera là que je pourrais devenir un rocker, quoi. J'aurais des bagues à tous les doigts, j'aurais une clope que je fume pas mais que je laisse cramer comme ça. Et je serais dans un coin aux Victoires de la Musique qui seront là, elle est encore là, c'est pas possible. Elle s'en va pas. Elle est toujours là.
Bon, Chris, vous aimez le live, vous aimez le public, vous l'aimez tellement d'ailleurs ce public que vous adorez descendre dans la fosse pendant vos concerts pour, je vous cite, vous frotter à eux comme un pervers dans le métro.
Quand est-ce que j'ai dit ça?
Ah ben, vous l'avez dit, mais si, vous l'avez dit.
Non, mais je me scandalise contre moi-même. Bah, le timing de cette citation est très mauvais. Parce que je stop au pervers dans le métro d'ailleurs.
Peut-être.
Mais c'était une mauvaise blague que j'ai fait. Parce que, contrairement au pervers dans le métro, j'attends quand même le consentement de mon partenaire de frottage. Mais en vérité, je me frotte pas vraiment. Mais j'aime bien l'idée d'aller dans le public et de me mettre un peu en danger. Pareil, anti-Beyoncé. C'est-à-dire que, et encore une fois, j'adore Beyoncé. Mais je prends le risque d'être très près des personnes. Qui voit finalement ma vraie taille, mon vrai nez, mes vrais yeux.
Et qui en sont très contents, j'imagine.
De toute façon, ce sera comme ça, ouais. Ce sera mon nez comme ça, jusqu'à ce qu'il s'effondre sur lui-même quand j'aurai 75 ans.
Avant d'accueillir Peter Doherty dans Pop Pop Pop, écoutons un peu de Cat Power et le morceau You Get.
You take a take and you will get. Get what you get.
just something I'll say. You always listen your way, but you take time to get what you want, and you tell me it's time. I am on, and you live in this world, and you'll get what you get, and you get what you get, and you will get what you get. But when you tell me there's another time, and when you tell me there's another time, forget, I won't forget, I won't forget it. It's time. It's time. Get what you get. Get what you get. Chicken, chicken, what you get. And you know when it's time, you'll get it all on yourself. You'll get it again, you won't be getting it.
C'est signé Cat Power. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et aujourd'hui, on traite la culture de façon... avec Peter Doherty. Bonjour Peter Doherty.
Bonjour.
Comme vous passez beaucoup de temps en France et que vous avez enregistré votre album en Normandie, vous parlez pratiquement couramment le français.
Ah oui, je parle français. Après 6 ans, dans Moulin...
Melun,
à Paris.
À Melun.
Éventuellement, j'avais la langue. La langue de Tenevis, la langue d'Astérix.
D'accord, oui, vous parlez à peu près le français, on va dire. Très bien.
Moi, j'ai dit que faire rimer Tournevis et Astérix, c'est déjà quand même pas mal.
C'est un bon début.
Deuxième langue de pop.
The second language of pop culture. La deuxième langue de la pop.
Ça comme un hommage, très bien. Mais on va quand même rester en anglais. Alors, Peter Doherty, vous voici avec un nouvel album prévu pour le 26 avril, 2 ans après votre album solo Hambourg Demonstration. Il est sobrement intitulé Peter Doherty and the Puta Madres. Alors, je parle très mal espagnol. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, Puta Madres?
Motherfuckers.
Ah, motherfuckers. Qu'est-ce que ça veut dire, motherfuckers, Charlotte?
Embrasseur de maman.
Embrasseur de maman. Très bien.
Et quel...
C'est un mot un peu passe-partout.
Raphaël, my drummer.
Raphaël, mon batteur. Que j'ai rencontré donc à Barcelone. Il disait ça tout le temps. Quelque chose qui lui plaisait, disait Puta Madres. Quelque chose qui lui déplaisait, pareil. Puta Madres. Bon. Ou même quelque chose de médiocre, Puta Madres. À toutes les sauces. Je savais pas ce que ça voulait dire, au juste. C'était un tic de langage. Mais enfin, je me suis dit, c'est un bon nom pour un groupe.
Yeah. Alors justement, il est né comment, ce groupe?
Just like that, really.
Ça s'est fait comme ça.
Me and Rafa.
Avec Raphaël, donc.
On
s'est retrouvés. On a dit qu'il fallait créer ce groupe. Voilà.
Vous avez vécu quelque temps en France. On l'a dit, Peter. Quel est votre niveau de français aujourd'hui?
Pas mal. Pas mal, pas parfait. Yeah. C'est difficile. Tous les gens parlent anglais avec moi.
Comme nous, yeah. Enfin, grâce à Robert. L'album a été enregistré l'été dernier en 4 jours, à Étretat. Vous n'êtes pas un adepte des longues sessions de studio? Ça vous va pas?
Non.
Pourquoi?
Plutôt pas long.
Do you like long studio
sessions? Vous, ça vous plaît, les longues sessions?
Moi, je ne chante pas.
Mais si, vous chantez Charlotte.
But you spend a lot of time in the studio.
Mais vous passez pas mal de temps dans les studios, par contre, vous.
Mais je suis en bonne compagnie, donc ça va.
Merci, je le prends très bien.
Je vais vous dire, les meilleures choses qu'on fait dans un studio, c'est par hasard, par accident. Si vous réservez un studio pendant des semaines, on passe à quelqu'un pendant des heures à régler un ampli ou que sais-je. Donc, il vaut mieux faire ça discrètement, rapidement.
Et
c'était dans les conditions du direct, comme un live, dans une salle, c'est chez quelqu'un. à Étretat, donc dans une, villa. Bon, il y avait des caméras, des micros, et puis on a chanté nos chansons en live, et c'est comme ça qu'on a enregistré l'album. Donc c'est un groupe sur une falaise à Étretat.
Étretat, c'est le berceau de l'impressionnisme. C'est un endroit très important pour la peinture française. Quelle impression gardez-vous de cet endroit magique? Est-ce qu'il a été particulièrement inspirant pour vous?
Je vais vous dire. Pour entrer dans Étretat, j'ai deux chiens, des huskies. Enfin, un husky et une autre race. Toujours est-il que Étretat, c'est un endroit très spécial. Parce que, bon, ces chiens sont libres, ils peuvent se balader dans le village, sur la plage, même la police les aide, au contraire, à se balader librement. C'est le seul endroit au monde où on peut avoir deux animaux complètement dingues, des chiens loups pratiquement. On peut leur donner libre cours. Je connais aucun autre endroit au monde. Donc c'est un endroit absolument magique, effectivement.
Faut pas leur jeter le bout de bois au-dessus de la falaise, quoi.
It's the one dog that won't chase a stick. Enfin, de toute façon, ce qui va pas chercher un bâton si vous lui envoyez. Si vous lui balancez quelque chose, il vous regarde et qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu veux?
Un peu comme
moi. Il va pas chercher.
Est-il vrai que quand vous êtes en France, vous pratiquez assidûment la pétanque?
Et à Margate également, en Angleterre.
Vous vivez maintenant, oui.
Tout à fait.
Mais pourquoi cet amour pour ce sport si particulier?
En fait,
parce qu'ici, à Étretat, c'est une religion, la pétanque. On prend ça très au sérieux. J'avais rencontré quelqu'un à 5 heures pour une partie de pétanque, je me rappelle. Et j'étais un peu en retard. Et il ne m'adresse plus la parole depuis. Il me dit que je ne suis pas quelqu'un de sérieux. Parce que pour moi, j'arrive en retard à la pétanque. Donc c'est rédhibitoire.
Vous tirez ou vous pointez?
Non, je ne tire plus.
C'est très bien. Intraduisible.
Je fume simplement.
Et d'après vous, qu'est-ce que la France a de si particulier pour les musiciens britanniques qui sont assez nombreux à venir enregistrer ici, voire à s'y installer?
C'est vrai ça. C'est vrai que c'est intéressant. Vous savez, justement à Étretat, on en parle. Il y a un type qui se balade avec une guitare. Personne ne sait trop ce qu'il fait, d'où il s'évade, d'où il s'est enfui, mais Étretat l'a accueilli, où il est hébergé dans une chambre chez quelqu'un. Il fait un peu de jardinage et puis il joue sa guitare. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais disons que voilà cette façon d'accueillir ces réfugiés musicaux. Cet accueil de la musique à Étretat. Il y a la musique et aussi le vin. Il y a une certaine liberté, un vent de liberté qui souffle et qui souffle au cœur des Français. Et quelquefois, il nous faut un peu de ça. Il faut qu'on se rappelle ce que c'est, cette liberté.
Bien. Peter Doherty, vous avez joué sur les scènes les plus prestigieuses du monde et vous vous apprêtez, car vous l'avez accepté, à chanter une chanson sur la scène mythique de Pop Pop Pop. Est-ce que vous êtes prêt?
I'll give you a song.
Je vais vous chanter une chanson.
Another uptight, skinny white figure, silhouetted there with your finger on the trigger. Your mind got mangled, soul got spangled in the modern American way. You wanna burn down your slum, you wanna kill your mom, you wanna blow the whole school, blow the whole town to kingdom come. 'Cause your mind get mangled, soul get strangled in the modern American way. You're living out a freak mythology in a social dichotomy. Powerless, no property, no Marvin Gaye anthology to soothe your soul on any God-given day.
yeah, you know, an ex-cheerleader. She's wheelchair bound on the far side of the trailer park. She's found, and when your wheel needs greasing and your puzzle needs piecing, it's a real low-down scene. You gotta crawl in, you know what I mean? What happened to the good old boys? Spitting feathers, slashing rye, Cagney slappers, tattoo crackers, tower crashes, sour mashes, highfalutin, rootin', tootin', shoot the city, hot titty, mayfly, cimitol. Yeah, you have to ride the red sharp to the center of the dream, where the eagle pecks you dry and the waitress licks you clean, singing, this'll be the day, boys, the day I come alive. So easy, low rider, punk buck bona fide, old New York, New Amsterdam, and a blue delta riser. The red shark to the center of the dream, where the eagle pecks you dry and the waitress licks you clean, singing, this'll be the day, boys, the day I come alive. Singing, easy low rider and a punk buck bona fide. It's old New York, New Amsterdam, and a
Merci Peter Doherty. Peter Doherty and the Puta Matres, votre nouvel album sort le 26 avril prochain. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontanus et Sonia Leglen, à la réalisation, à la technique Loïc Frapsos, Aurélien Esventre, rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet et Simon Restat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Kélian Yousfi, notre stagiaire. Demain, dans Pop Pop Pop, je fais passer Alexandre Astier, Louis Clichy, le groupe Canine et José Garcia dans mon mixeur de pop culture. Enfin, si José passe.